Radio Spirale.
Alors bonjour, bienvenue à ce troisième cercle de lecture Poésie été, organisé par l'OBNL La Poésie Partout, qui se consacre à la diffusion de la poésie d'ici et à la création d'événements de poésie. Nous sommes le 30 septembre 2017 et nous enregistrons aujourd'hui dans les nouveaux locaux de la librairie et atelier de quartier La Flèche Rouge, situé au 4281 rue Sainte-Catherine-Est à Montréal, qui est tenu par Pascal André. Je suis Benoît Bordelot et je serai l'animateur de ce cercle aujourd'hui. L'enregistrement de cet échange est rendu possible par le développement de partenariats à littérature québécoise mobile et le tout sera disponible pour écoute sur le site de Radio Spirale et à partir de la mi-novembre sur la deuxième mouture de l'application web Opuscule. Aujourd'hui, nous parlerons du livre de Marcel Labine intitulé « Le pas gagné » publié en 2005 aux éditions Les Herbes Rouges. Et comme le cercle s'intitule « Poésie été », alors ce soir au menu, nous savourons un Camaricha biologique, donc qui évoque, m'a-t-on dit, une promenade dans la rosée du matin. Ceci dit, comme on a oublié les filtres, le thé est fort infusé, mais fort agréable en bouche quand même. Et le tout sera suivi d'un puer chou Iowan, donc un puer vieilli qui date de 2005. En termes de description, on y retrouve des arômes de malt, de sucre d'orge et de bois exotique à la finale douce et subtilement fruité. Pourquoi ce thé? Parce que le recueil de Marcel Labine, Le Pas Gagné, a été publié en 2005. Et puis, voilà. Ça me suffisait comme lien. On n'ira pas plus loin. Et si on a la chance, on dégustera aussi un kabusecha takamado, donc un thé japonais gracieusement offert par le Camellia sinensis. On les remercie. Et on y retrouvera des notes d'épinards, de pois et de noix de cajou qui s'associent pour laisser en bouche une persistance agréablement marine. Et comme Marcel Labine est un poète qui a grandi dans le centre-sud, Schlaga, et qui est coupé du fleuve, alors voilà, c'est une façon de se rapprocher du fleuve tout en étant distant. Alors, je présente les participants du cercle de ce soir. Bertrand Laverdure, à ma gauche, donc poète, romancier, performeur et journaliste littéraire, qui a publié plusieurs livres depuis 1994. Il a participé à de nombreux spectacles littéraires et à une pléthore de lectures publiques. Il aime la multidisciplinarité en littérature contemporaine et il a été le poète de la Cité de Montréal de 2015 à août 2017. Ses prochaines publications seront Un herbier de Montréal, des poètes et des bédistes à la pastèque, avec 15 autres poètes et 3 bédistes qu'il a pilotés dans le cadre de son mandat de poète de la Cité et correspondance arboricole qui sera publié chez Mémoire d'Encrier, qui va paraître enfin en février 2018. Je crois, Bertrand, que tu auras des lectures... des extraits, oui, de ces textes-là plus
tout
tard.
À fait.
Excellent. À ma droite, Philippe Archambault, qui est né à Saint-Hyacinthe en 1981. On aime sa précision. Il vit et flâne à Montréal. Il est chargé de cours au département d'études littéraires de l'UQAM et il voulait que je passe un commentaire sur ses bouclettes, mais je m'abstiendrai. Esther Laforce, en face de moi, qui a fait des études en philosophie. Par la suite, elle est devenue bibliothécaire, profession qu'elle exerce à la section Arts et littérature de la Grande Bibliothèque depuis 2009. En 2013, elle entame des études de création littéraire à l'UQAM. Après avoir obtenu un certificat, elle poursuit son cheminement à la maîtrise depuis l'hiver dernier. Et aussi en face de moi, à côté d'Esther, Jonathan Lamy, qui se décrit comme un poète à tout faire, et on le croit. Il a publié 3 recueils aux éditions du Norrois, dont La vie sauve, qui a obtenu le prix Émile Nelligan en 2016. Il est titulaire d'un doctorat interdisciplinaire en sémiologie de l'UQAM. Il a mis sur pied l'organisme La Poésie Partout, un organisme de diffusion, de médiation et de dissémination de la poésie. Et en tant que spectatrice, aujourd'hui, on a Nelly Desmarais, qui vit à Montréal depuis 2005, où elle lit, écrit et étudie lentement. Elle est cofondatrice de la revue étudiante Lieu commun. Elle travaille dans le milieu de l'édition et prépare un mémoire de création littéraire à l'Université du Québec à Montréal. Donc, Nelly, si jamais tu veux intervenir, on t'accueille à bras ouverts, sinon... Voilà, tu y vas comme tu le sens. Et on a aussi Pascal André qui s'est joint à nous autour de la table, qui savoure une tisane. Et donc, merci Pascal de nous accueillir. C'est toujours très agréable d'être reçu chez toi à La Flèche Rouge. Alors, ce soir, on parle de Marcel Labine, qui est né à Montréal en 1948. Il a grandi dans un quartier très modeste de Montréal, sur la rue Florian, qui se trouve à la lisière de Centre-Sud et de Schlaga-Maisonneuve. Il a révélé dans une entrevue donnée par Hugues Corriveau, qui est disponible sur Radio Spirale d'ailleurs, que son père était très autoritaire, sa mère rigide. Ainsi, il passait le plus clair de son temps au sport, à l'extérieur, avec ses copains du quartier. À la maison, peu ou pas de livres, ses parents toutefois valorisent beaucoup l'éducation. C'est vers l'âge de 17 ans, 16-17 ans seulement, qu'il découvre la poésie. Rimbaud, tout particulièrement, le fascine. Il fera l'école normale et, grâce à des enseignants allumés, il fera la découverte, entre autres, des surréalistes, tout en lisant les classiques, Virgile, Dante, etc. Il a complété des études de premier cycle à la Faculté des lettres de l'Université de Montréal. Il a enseigné la littérature au Collège de Maisonneuve durant 33 ans. Ça se mérite des félicitations. Il collabore et a collaboré à plusieurs revues au fil des ans, dont Spirale, Les Herbes Rouges, Möbius, La Nouvelle Barre du Jour. À la NBJ, d'ailleurs, il a été membre du comité de rédaction pour la collection Première Ligne de 1985 à 1990. Il participe à de nombreuses lectures de poésie et a collaboré à la chronique sur le roman américain de l'émission Littérature actuelle qui a été diffusée à la radio FM de Radio-Canada de 1991 à 1994. Il a publié une vingtaine de livres depuis 1975, année de la parution de son premier ouvrage, Lys, aux Herbes Rouges. Alors, en termes d'œuvres marquantes, j'en ferai pas une liste exhaustive, il y a tout plein de ressources sur Internet que je vous invite à consulter. Donc, on peut parler, entre autres, de La marche de la dictée, donc, qui a été publiée en 1980 aux Herbes Rouges. Pour moi, Marcel Labine, son œuvre commence là et lui-même le dira donc dans l'entrevue qui avait été donnée par Hugues Corriveau. C'est dans cette œuvre que, soudain, la figure de la marche apparaît dans son œuvre et jusqu'à son œuvre la plus récente, Vivre à Poets Corner, la marche est partout, que ce soit même dans ses territoires fétiches, dans les papiers d'épidémie, c'est vraiment une figure structurante de son œuvre. Et on aura certainement l'occasion d'en reparler. Il y a ici des marcheurs, des flâneurs, et flâneuses. Peut-être un peu, sait-on. Alors voilà, La marche de la dictée en 1980, Papier d'épidémie, publié en 1987 et qui a été réédité en 1994 avec en plus un entretien avec André Lamarre intitulé « Le chiffre de l'émotion ». Territoire fétiche, quant à lui, a paru en 1990, a été réédité en 1996. Donc, Territoire fétiche, c'est un peu, comment dire, une cartographie du désir, si on veut. Livre très intéressant. Le Pas gagné, publié en 2005 et dont il sera question ce soir. Et Le tombeau nous courons a été publié en 2012. Ces deux œuvres-là sont les deux œuvres qui sont les plus autobiographiques de Labine. Ce sera le premier à l'avouer. Et chez Labine, il y a une espèce d'esthétique, quand même, la dissimulation du biographique, mais dans Le pas gagné, dans Le tombeau nous courons, ça émerge de façon assez flagrante, bien qu'il y ait une certaine simulation, en fait, de cette biographie-là. Plus récemment, Promenade dans nos dépôts lapidaires qui a été publié en 2013 et comme je vous le disais tout à l'heure, Vivre à Poets Corner qui a été publié en 2015. En termes de prix et distinctions, Marcel Labine est un écrivain décoré au Québec, donc je vais vous en faire part, ça me semble important à souligner. Donc en 88, il a reçu le prix du gouverneur général du Canada pour son recueil Papier d'épidémie. Il a aussi reçu le prix d'excellence pour le meilleur texte de fiction décerné par l'Association des éditeurs de périodiques culturels québécois pour Musique, dernier mouvement. En 1994, il a été finaliste au prix du gouverneur général pour Machine imaginaire. En 2006, il a reçu le Grand Prix québécois du Festival international de la poésie de Trois-Rivières pour Le pas gagné. En 2012, Labine obtient la bourse Gabriel Roy et effectue une résidence d'écriture à Petite-Rivière-Saint-François. C'est d'ailleurs là qu'il a terminé la rédaction de Promenade dans nos dépôts lapidaires, qui est paru un an plus tard. Finaliste au Grand Prix, donc toujours en 2012, au Grand Prix du livre de Montréal pour Le tombeau où nous courons. En 2013, on poursuit toujours avec la liste des prix reçus par Labine. Il a reçu le prix du Festival de la poésie de Montréal et le Grand Prix québécois du Festival international de la poésie pour Le tombeau où nous courons. Il a aussi été finaliste pour le prix de poésie estuaire, Bistrot Le Méac, pour Le tombeau où nous courons. Et d'ailleurs, ça aurait pu faire l'objet de ce cercle de lecture ici ce soir. Alors, Le pas gagné. Oh, on pourrait aussi faire une dernière petite remarque. Labine a été finaliste au Grand Prix du livre de Montréal pour Promenade dans nos dépôts lapidaires. Donc, on voit là, assez clairement là, que ses dernières œuvres ont été célébrées. Donc, à partir de Papier d'épidémie, il y a quand même une reconnaissance assez importante de son œuvre qui a courant. Je vais vous présenter, de façon assez générale, le recueil, la façon dont il est divisé. C'est un recueil très complexe, donc on n'ira pas tout de suite dans les détails. Je crois que ce que je vais privilégier ce soir, c'est y aller avec vos impressions de lecture et c'est ça, amener de l'eau au moulin au fur et à mesure de la discussion. Alors, le Pagani, faut le dire d'emblée, le recueil est divisé en 7 sections et le chiffre 7 va structurer, en fait, le recueil. Que ce soit même dans les énumérations, il y a souvent 7 objets qui sont énumérés, 7 portes qui reviennent, 7 morceaux de chocolat, etc. Donc, c'est pas, il n'y a pas de numérologie ou quoi que ce soit à l'œuvre, un peu comme pour le recueil papier d'épidémie. Hein, c'était le chiffre 4 qui venait donner une structure, donner une forme, en fait, et un rythme au recueil. Dans le Pagani, c'est le chiffre 7 qui est prédominant. Donc, les 7 parties regroupent 20 poèmes chacun. Donc, on va traverser, en fait, différents espaces. Donc, un chantier qui est observé à partir d'un appartement. Ensuite, un parc, un bistrot, un quartier, celui d'enfance. Le quartier d'enfance, en fait, donc, centre-sud et Hochelaga. Par la suite, on va arriver dans un bar, la montagne, à savoir le Mont-Royal, et finalement, une librairie qui est décrite comme étant le théâtre de la Genèse et de l'Apocalypse. Donc, là où tout commence et où tout se finit. Ou plutôt, là où tout se révèle. Donc, le contexte est très approprié ce soir. donc, en termes de rythme, Philippe et moi, on avait eu la chance de recevoir Marcel Labine dans le cadre d'un cours qui était donné par André Carpentier. Donc, on l'interviewait, puis il nous avait dit de faire attention. Justement, il y a, comment dire, toujours la recherche d'un équilibre dans le recueil. Donc, il y a à la fois des parties qui sont actives et ensuite, oups, il y a une stabilité qui vient s'installer. Donc, on est toujours dans cette espèce de recherche d'équilibre-là. Ça se fait un peu sur le mode d'une marche, hein, donc toujours la reprise constante d'un équilibre. Hein, on se met en déséquilibre pour reprendre la marche, pour garder le pas gagné, justement. Et ça, Philippe nous en glissera un mot sur la formule qui vient de Rimbaud. Il est très évident que le passage du temps est au menu dans ce recueil-là. La fin des choses, qu'est-ce que c'est qu'habiter, en fait, une ville? Qu'est-ce que c'est qu'habiter l'espace tout court? Et ce, par l'écriture. La mémoire est au cœur de ce recueil-là. En fait, Labine va fouler des endroits qu'il connaît très bien et surtout, c'est le recueil où il va vraiment prendre à bras le corps le quartier d'enfance, à savoir Hochelaga, et puis il retourne sur les lieux de son enfance. Donc, il n'avait pratiquement pas abordé depuis le début de son œuvre. Et justement, c'est un témoignage de ce qui reste, de ce qui persiste dans le présent et c'est une mise au présent en fait de la mémoire, donc dans des lieux qui sont toujours nommés. Et ça, c'est très important. Quand on discutait avec Marcel, Philippe et moi, il y avait cette importance-là de nommer les choses pour que les expériences dont il est question, ce ne soit pas des, comment dire, que ce ne soit pas quelque chose d'abstrait. Donc, on peut ne pas connaître, par exemple, la rue Florian ou la rue L'Espérance. Par contre, en les nommant, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est proche de nous, mine de rien, qu'on se rapproche des lieux dont il est question, qu'il y a une familiarité. Et cette question-là de la familiarité est super importante chez Labine. Il y a toute une esthétique aussi hein, de la quotidienneté, donc de la répétition qui est présente dans son œuvre. Et c'est assez flagrant, notamment par l'usage de l'anaphore dans Le Pagani. Donc, il y a une répétition, il y a une insistance, en fait, des lieux qui sont inscrits en soi. Et ça, on aura vraiment l'occasion d'en discuter là, tout à l'heure. Le lieu, la marche, etc., tout ça, c'est lié. Alors, en fait, je passerai au tour de table à ce stade-ci. Et puis, est-ce qu'on commence avec Philippe? Tu as l'air d'un gars prêt.
Avec plaisir. Donc, merci d'abord, Benoît, de m'avoir invité à cette table ronde. Je crois que tu voulais savoir ce qu'on lisait d'abord, ce qu'on est en train de lire dans le moment. Eh bien, je lis un magnifique livre écrit par Yves Desjardins, « L'histoire du Milan », et qui est merveilleux. Et je dirais que c'est une autre manière de témoigner du quartier, de l'espace habité, puisque l'auteur, Yves Desjardins, a vécu dans le quartier et est retourné après des années d'absence pour y vivre. Et je lisais donc Yves Desjardins parce que j'étais en train de lire l'œuvre de Mordecai Richler, Dudy Kravitz, l'apprentissage de Dudy Kravitz. Dans la nouvelle traduction, faite par Laurie Saint-Martin et Paul Gagné, qui est une merveille. Sinon, pour m'amuser, je lis la Terre paternelle. de Patrice Lacombe, parce que je m'intéresse à la figure du coureur des bois. Et c'est d'une grande ironie ce texte, puisqu'on en a fait le texte fondateur du roman paysan, roman de la terre, mais c'est quand même le coureur des bois qui permet de préserver, de racheter la terre paternelle et donc de maintenir la tradition. Voilà.
D'accord. Est-ce que ton impression générale du Pas-Gagné, je sais que tu l'as relu
pour
l'occasion.
Ben, c'est pour ça que je suis très heureux. Ça faisait 2 ans, en fait, que j'avais un peu déserté l'œuvre. Je l'ai lu intensément, passionnément, pendant des années. Je l'ai retrouvé avec grand, grand bonheur et je n'ai pas été attiré nécessairement par les mêmes choses cette fois-ci. Par contre, c'est la même chose, la même dimension dans l'œuvre qui me happe encore aujourd'hui, je dirais, c'est la dimension éthique. Dans le sens que Marcel Labine, c'est vrai pour le Pas-Gagné, mais c'est vrai pour ses autres recueils, va prendre en charge nos relations conflictuelles, nos espèces d'ambivalence qui sont indépassables. Je pense entre l'ambivalence entre la chair et le mot, pour prendre des termes qui sont très, très proches de ceux de Labine. La chair et le mot, le réel et le langage, le réel et la poésie. Et je trouve qu'il prend en charge, donc il expose ces conflits-là sans jamais les résoudre, sans jamais les désamorcer, toujours en maintenant une tension dans chacun de ses recueils. Pour aujourd'hui, il y a un poème dont je voulais vous parler un peu plus. C'est le dernier poème de la première donc partie du recueil intitulé Gravat. Pourquoi je l'ai choisi ce poème? D'abord parce que je l'aime. c'est toujours une bonne raison. La deuxième raison, c'est que dans ce poème, il y a les 3 substances principales qui composent le recueil de Labine, le Pas-Gagné. Les 3 substances principales que vous retrouvez nommées en 4e de couverture sont la mémoire de la poésie, la mémoire de l'enfance et l'immédiateté du présent. Et donc ce poème, en quelques vers, va saisir ces mémoires et ce temps présent de manière assez, justement, saisissante. Et je l'ai choisi aussi parce que, au départ, je l'ai d'abord surinterprété pour ensuite me rendre à l'évidence. Et donc, je suis parti aussi de cette impression de lecture. Ouais, est-ce que tu veux que j'en fasse la lecture? J'en ferai une lecture. Il y a devant soi une porte que les rois ne touchent jamais. Mais dès qu'on l'empoigne, elle cède et mène à quelques lieux secrets. Parc très proche, bistrot, quartier d'enfance, un bar tamisé, une montagne plus lointaine, une librairie, théâtre, de la Genèse et de l'Apocalypse. C'est là que l'on commence et finit à la fois. Voilà le ventre et la tombe, la caverne et le temple, là où il faut regarder de tous ses yeux pour apercevoir à l'une des parois ce que, jadis, de vieilles mains avaient tracé à la chaux. Au réveil, il était midi. Et donc, mon premier réflexe était d'accrocher sur le premier vers. « Il y a devant soi une porte que les rois ne touchent jamais. » Mais de quelle porte on parle? De quelle porte on parle? Donc, je réfléchis, mais de toute façon, les rois ne touchent pas aux portes, on les ouvre pour eux. Et là, je dis, mon Dieu. Et donc, j'étais dans cet effort de surinterprétation quand je me suis rendu à l'évidence et il y a eu illumination. Mais avant, donc, de parler de cette évidence, parenthèse, j'ai rencontré Benoît, donc, il y a quelques jours, et je lui parle justement de ce travail de surinterprétation, et ça reste comme ça, on rit. Et Benoît, qui a eu une période très intense, Francis Ponge, m'écrit le soir, il me dit, « Ben, tu sais, c'est une référence à Francis Ponge dans Le Parti pris des choses, il y a ce poème intitulé « Les plaisirs de la porte ». Et Ponge, donc, écrit ceci « Les rois ne touchent pas aux portes. Ils ne connaissent pas ce bonheur. Pousser devant soi avec douceur ou rudesse l'un des grands panneaux familiers, se retourner vers lui pour le remettre en place, tenir dans ses bras une porte. » Et donc, quand même, chez Ponge, c'est de l'ordre de la généralité, c'est-à-dire les portes, c'est toutes les portes. Et là, j'en reviens à cette première idée, mais les souverains, de toute façon, ne touchent pas aux portes. Et bon. Mais j'avais déjà trouvé l'évidence de cette porte devant soi que les rois ne touchent jamais. C'est tout simplement la porte qui conduit au monde. C'est la porte qui conduit au milieu des choses et des êtres. Et j'ajouterais, c'est la porte du flâneur. C'est la porte que le flâneur prend pour sortir donc de ce dedans, de cet intérieur, pour aller, comme le dit Labine, dans un parc, le bistrot, le quartier d'enfance, la librairie du coin. Et donc, il y avait donc cette évidence, et au creux de cette évidence, c'était la porte donc du milieu des choses, ou, pour employer, parlons latin, la porte du in media res. Donc, dans ce poème, il y a l'idée, je trouve c'est ce qui fait toute sa force, du milieu et des choses. Quelques mots sur le milieu, on peut juste l'envisager d'une manière très banale, dans le sens le milieu, c'est aller dans le monde, se rendre visible, aller parmi nos semblables, aller au parc, dans les endroits publics. Je dirais c'est le milieu des choses et des êtres du flâneur, celui qui arpente la ville, du déambulateur. Mais c'est aussi le milieu qui témoigne de notre condition humaine. C'est-à-dire, on est des êtres de l'entre-deux. Et là, évidemment, dans le poème, c'est là que l'on commence et finit à la fois le ventre et la tombe, la caverne et le temple. Et donc, c'est aussi la porte qui nous reconduit, qui nous conduit vers notre médiocrité. Mais médiocrité dans le sens premier du mot, c'est-à-dire du fait d'être au milieu, de se tenir, d'être moyen, de se tenir au milieu. Et donc, il y a tout cet aspect existentiel qui est porté dans le poème. Milieu aussi, pour reprendre les paroles de Pascal, hein, entre l'ange et la bête. Hein, cette idée qui est présente aussi pendant tout le recueil, qu'on n'est jamais tout à fait à un endroit, mais toujours dans une espèce d'entre-deux, entre plusieurs mémoires qui nous hantent, qui nous habitent. Et dernière chose que je voudrais ajouter au sujet de ce milieu, le dernier vers, donc, à la chaux, au réveil, il était midi. Au réveil, il était midi. Et donc, le dernier vers du poème Aube, qu'on retrouve dans les Illuminations de Rimbaud. Et ce poème, en fait, c'est le sujet dans ce poème est à la poursuite de l'aube, de la déesse des commencements, de sa beauté, donc de la beauté des commencements. Et le poème va se terminer par ces lignes. En fait, je dis poème, si vous êtes familier avec les Illuminations, hein, on est dans la prose, dans le fragment poétique. Il se termine donc ainsi, la prose rimbaldienne se termine. « L'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois. Au réveil, il était midi. » Et donc, dans le poème de Labine, « Au réveil, il était déjà midi, il était midi », c'est le fait que lorsqu'on se réveille, lorsqu'on prend conscience d'être au milieu des choses et des êtres, l'enfance est déjà derrière. Et ça, c'est une idée qu'on va retrouver chez d'autres écrivains, je pense à Pierre Bergougnou d'ailleurs. Et donc, il y a aussi ce milieu-là, qu'on est toujours au milieu de notre existence, que notre conscience apparaît au milieu et jamais au commencement. Mais, et donc, voilà, et est-ce que je peux ajouter juste
un dernier petit mot, puis oui. Après ça, j'ajouterai quelques éléments.
Ouais. Pour finir avec cette idée de « au milieu des choses », les choses dans le recueil, ça revient, il est question des choses d'un couvert à l'autre, Et ce sont les choses, en fait, fabriquées. Et il y a une insistance sur cette idée des choses fabriquées, et non pas de matière première comme telle, donc les créations de l'homme. Et ce sont des choses, hein, la peau souillée des choses, pour reprendre une citation de Harrison qui est citée dans le recueil par Rabin, la peau souillée des choses enseigne à l'homme donc, sa propre finitude. Et ça, c'est une idée forte du recueil, les ruines, les choses qui vont comme ça témoigner, exprimer notre finitude à tous.
Merci Philippe. Par rapport à la porte, hein, c'est aussi le moment où l'appartement hein, est quitté. Puis Labine dans Vivre à Poets Corner, donc dans un fragment qui s'intitule La réalité 2. Puis après ça, Jonathan, je te cède la parole, inquiète pas. Il dit ceci, « J'écris toujours face à un mur, à l'air libre, tant à la ville qu'à la campagne, par les rues, les bois, je suis incapable de noter quoi que ce soit dans mon carnet Moleskine. Au grand dehors, je ne médite pas, je marche, regarde, parle. Je n'habite pas le monde en poète lorsque je me déplace sur l'infini des horizons urbains ou ruraux. Pendant que durent ces expériences d'une banalité sans nom, je ne suis pas face au monde, j'en suis partie prenante. Je n'imagine rien, encore moins la simple possibilité d'un poème à écrire. Tout vient après, face au mur, ayant à la main un carnet, un livre de poésie sous les yeux, d'autres qui parlent de paysages, de peinture, de Stimmung. Les paysages inhospitaliers de Poets Corner émergent de ces expériences discontinues de marche, de lecture et de mur. » Et bon, là, dans le poème que tu as lu, justement, on a déjà deux références assez fortes hein, et qui traversent là, à peu près toutes les œuvres de Labine, mais en particulier le Pagani, à savoir Francis Ponge et Rimbaud. C'est partout. Il y a des reprises là, telles quelles de certains vers. Parfois, c'est de la paraphrase, mais il y a beaucoup, hein, justement, ce travail de la mémoire-là, hein, la mémoire de la citation, à la limite, qui est présente. Et ça, c'est quand même une particularité aussi des poètes des Herbes Rouges. C'est non seulement on parcourt justement une œuvre de langue et de langage, mais aussi on a affaire à un parcours de lecture. Et ça, c'est super important. Chez Labine, tous ses poèmes sont truffés de références, on s'en sort pas. Et donc, c'est vraiment ce jeu-là entre ce que je lis et ce que je lis du monde qui m'entoure, cette interaction-là, en fait, qui donne justement lieu à la voix de Labine.
En fait, Francis Ponge, j'ai cité littéralement à deux, trois reprises dans le recueil aussi, là, à la page 149, entre autres.
Oui, on s'en sauve pas. Jonathan, on t'écoute.
Les choses sont aussi les choses fabriquées, mais le parti pris des choses. Donc, la passion pour les objets de Ponge qui se retrouve chez Labine. Et on parlait de parcours et de portes, c'est ça. C'est ça qui m'a intéressé beaucoup dans ce recueil-là, c'est le parcours qu'il fait à travers des lieux qui seraient à la fois familiers et fétiches, ou des territoires à la fois familiers et fétiches, pour faire un clin d'œil à un titre d'un de ses recueils, et des lieux qui sont aussi, pour moi, familiers et fétiches, c'est-à-dire, ça se passe dans le quartier Hochelaga ou Centre-Sud, les lieux sont nommés, la rue Darling, où j'ai habité, donc des choses comme ça, le métro Pie-Neuf, le village des valeurs, le viaduc, la promenade qui est évoquée avec ses arches, d'une certaine façon, les bazars qu'on peut très bien imaginer être les espèces de foires commerciales épouvantables de la rue Ontario.
D'ailleurs, un petit mot là-dessus, même la promenade aux phrases, donc, la façon dont il appelle la promenade Ontario, c'est aussi une référence à la promenade aux phares de Virginia Woolf. Donc voilà, on n'est jamais très loin d'une lecture.
Effectivement. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est à travers ces lieux-là qui sont très banals, il y a toujours effectivement une référence littéraire qui est là et c'est jamais nommé juste pour être nommé. Et tout prend un autre sens, mais seulement les mots « village des valeurs ». On dit « Ah, OK, oui. » Donc, si la porte prend le sens aussi d'être ce qui est au milieu des choses, ce qui nous permet d'ouvrir, de passer un lieu à l'autre, bien là, tu as village, tu as valeur. On peut aller loin comme ça avec chacun de ces petits lieux. Et donc, dans ce parcours-là, le titre aussi est intéressant. On peut l'entendre de deux façons. C'est le pas gagné, donc mettre un pied devant l'autre, c'est un peu gagner... gagner de l'espace, et on marche comme ça, en gagnant un pas à la fois. C'est le passage de la vie aussi, donc qui est là. Et dans le sens de la négation, le pas gagné, c'est ce qui n'est pas gagné, donc ce qui est perdu, ou ce qu'on ne gagne pas, ce qu'on ne gagnera jamais. Et j'ai aimé aussi cette... J'ai relu le livre avec ces deux idées-là en tête, qui me rappellent un peu aussi celle du... comme paradoxe, celui du piéton immobile de José Aclin. C'est aussi le titre d'un de ses recueils où il dit, entre autres, ça, je suis le piéton immobile parce que je regarde le monde pour voir comment tout marche sans moi. Et donc, ce n'est pas tant le marcheur qui marche, mais le monde tout autour. Et les moments les plus intéressants de la déambulation sont ceux où on ne marche pas, où on s'arrête. Et donc, il y a ça chez Labine, avec toujours tout est toujours une métaphore de l'écriture aussi. Au début du recueil, il est question d'un chantier, il est question d'ouvrier. Là, on se dit, OK, là, c'est le processus, c'est le livre qui se met en place à travers cet échafaudage-là. Et on imagine donc le poète avec son conteneur près de sa table de travail pour se débarrasser des vieilles briques. Et puis, si on change les fenêtres, hein, il faut jeter les vieilles. Et on continue comme ça, avec la métaphore de l'écriture, jusqu'à un petit poème que je vais lire, encore là, qui nomme les lieux et qui met ça en relation à l'écriture. Et le lieu qu'on nomme, c'est le métro Pie-Neuf, et on va se retrouver au cœur d'une métaphore de la poésie ou d'un enjeu important de l'écriture. Ça va comme ça. Avalé par une bouche du métro Pie-Neuf, ceux qui n'ont plus de temps accélèrent leurs pas, piétinent des cartons, de vieux journaux, des feuilles griffonnées, la poésie jetée par terre comme de la viande à des chiens. C'est le titre d'une des sections, comme de la viande à des chiens. Et on retrouve ici, comme on l'a évoqué tantôt, cette médiocrité ou ce caractère très ordinaire des choses. On est vraiment au ras du sol, on est dans le territoire. Et donc la poésie est ici, tous ces déchets-là, soit de conteneurs qui se ramassent dans une maison qu'on démolit, ou ces papiers-là qui jonchent le sol. Et comme c'est toujours en tension ou en paradoxe, vers la fin du recueil, l'écriture est plutôt comparée à une étreinte, et donc j'aimais bien ça. La poésie comme ce qui traîne par terre, comme de la viande qu'on donne aux chiens, donc pas nécessairement de très bonne qualité. Et après, la poésie comme une étreinte du monde. Alors j'aimais bien ces deux mouvements. Je lis le poème, puis on pourra poursuivre la discussion. C'est vers la toute fin du recueil. Les poèmes étreignent le vivant, le proche et le lointain, cette matière qui bouge dans l'éternité des jours, quartier d'enfance délabré, parc de verdure gigogne, montagne d'ouest, saison et planète, tout ce qui entre au dictionnaire ou fait une liste. Il n'y a pas de figure qui puisse rendre l'infini de la langue, de sa coulée sans frein, non plus que de la brutalité présente dans chaque mot qui prétendrait la figer dans le temps et l'espace, par une sorte de rêve fou, celui de se faire comprendre et de se retrouver enfin quoi. Et donc, dans ce texte-là aussi, donc, toute une autre... on nomme quand même des lieux qui sont un peu aussi ceux du parcours, donc le parc, la montagne qu'on a parcouru, la librairie aussi qui est là. Et avec cette idée-là que le rêve fou qui n'arrivera jamais, donc d'être compris et de pouvoir se taire parce que, voilà, on a réussi à étreindre le monde et les autres nous ont compris. Alors, voilà, on n'a plus rien à dire. Et donc, cette espèce de chemin vers lequel va le poète, auquel il n'y arrivera jamais. Bon, voilà.
Ouais. D'ailleurs, par rapport à ça, justement, se retrouver enfin quoi, c'est... Dans le pas gagné, ça devient assez manifeste. Il y a comme une espèce de, comment dire, d'insistance de Labine sur le fait qu'il pourrait ne plus écrire éventuellement. Et c'est encore plus manifeste dans le tombeau où nous courons. Et puis, il y a en même temps, dans le tombeau, il dit carrément « le monde est une parataxe ». Et donc, c'est, le monde est constitué de deux propositions et les liens ne sont pas évidents, entre, ne sont pas explicités entre ces deux propositions-là. Et donc, tout ce qu'il peut faire, finalement, c'est faire le geste d'écrire pour essayer de rendre évidents ces liens-là, tout en sachant que jamais il y aura de coïncidence entre justement le monde en tant qu'expérience et le monde en tant que matière verbale, finalement. Puis on y reviendra sur la matière verbale, il y en est question plus tard. Et d'ailleurs, bon, Labine étant bon grand amateur de Ponge, on s'en sauve pas. Il était question de la matière tout à l'heure. Un passage de Ponge ici, donc dans le parti pris des choses. Pourquoi c'est seulement par la littérature littérante qu'on peut choisir de vivre? Ça, c'est dans le passage des raisons d'écrire. On pourrait, semble-t-il, choisir d'être un bon bourgeois, un bon artisan, maire de sa commune, etc., ou roman feuilletoniste comme Jules-Marie, ou marchand de n'importe qui, de n'importe quoi, comme son ami Rimbaud. Bon, Rimbaud, encore un pari, on s'en sauve pas. Mais non, car cela est insignifiant, peut prêter à confusion. L'expérience l'a bien montré. Seule la littérature, et seule dans la littérature celle de description, par opposition à celle d'explication, parti pris des choses, dictionnaire phénoménologique, cosmogonie, permet de jouer le grand jeu, de refaire le monde à tous les sens du mot « refaire » grâce au caractère à la fois concret et abstrait, intérieur et extérieur du verbe, grâce à son épaisseur sémantique. Ici, Camus et moi, nous rejoignons Paulhan. Mais bon, là, on n'embarquera pas dans Camus et Paulhan, c'est pas l'objet de notre discussion. Mais il reste que justement ce rapport-là, intérieur-extérieur, dont Philippe avait parlé, ça se retrouve même là, jusque dans les références que Labine utilise, ça c'est assez intéressant. Merci Jonathan pour ta lecture. Donc on reviendra sur la question de des matières verbales, des choses fabriquées. Ça c'est central chez Labine. Esther, on t'écoute.
Oui, donc ben moi j'ai lu le recueil comme... Une sorte de long commentaire critique sur la philosophie de Platon, sur l'allégorie de la caverne. Je viens de philo, tu l'as dit tantôt. Puis c'est ça, je voyais, on dirait, en fait, le recueil est comme une sorte de trajectoire où on va réfléchir... en fait, à deux pans du monde, les choses verticales qui sont constamment nommées. Donc, les choses verticales, je les ai comprises comme... bon, tu parlais des choses fabriquées, je les ai prises comme un peu le monde sensible, les choses prises dans la gravité, donc qui vont vers le bas. Et le pan horizontal, qui est celui de l'écriture, de la poésie, si on fait le lien avec Platon, là, c'est un peu... en fait, monde, l'univers platonicien est divisé en deux, hein? On s'en souviendra. Donc, le monde sensible et le monde intelligible. Puis, donc, c'est ça. Donc, le pan horizontal qui est lié à la poésie, à l'écriture, qui ouvre des perspectives. Et donc, on peut relier au monde intelligible platonicien. Mais ce que je trouvais intéressant chez Labine, c'est qu'il va plus loin que Platon. Platon s'en tient à cette dichotomie-là entre monde sensible et monde intelligible. Mais donc j'ai senti que le recueil était une trajectoire vers la réconciliation de ces deux mondes-là. Et l'idée que finalement le poème, la pensée, l'écriture... est lié, intimement lié au monde temporel, au monde sensible, au monde qui subit la corruption, la génération et la corruption, donc qui disparaît. Puis, voilà. Je ne sais pas, je peux peut-être sauter tout de suite au poème commenter et qui rend compte un petit peu de cette réconciliation-là. C'est le poème qui a été mon premier coup de cœur dans le recueil, justement parce que ça parlait de cette réconciliation-là, qui est non seulement une réconciliation, en fait, je pense, de ces deux pans ontologiques, le monde sensible, monde intelligible, mais aussi du narrateur avec sa communauté, avec le reste des humains. Donc, c'est le poème de la page... la page 75. Ouais. Donc, voilà. Ça va comme si. Mercredi est suspendu au calendrier vert, sur le mur, là, devant vous. que le tabac des ans a jauni illustré, expulsé d'une multitude de bouches, entrouvertes, pour que des phrases s'en échappent, voltigent dans l'air et pénètrent l'oreille de quelqu'un qui l'attend. Dans l'espoir fou qui est aussi le vôtre, d'y entendre le corps vivant des mots, ceux qui aident à vivre le passage du temps, accumulé au creux de toutes vos cellules. Donc, peut-être pour bien comprendre, il faut le replacer dans cette partie-là du recueil, qui est une partie qui s'appelle, je ne sais plus si c'est la troisième, la quatrième, pulvérisation, et qui est une partie donc, qui met en scène un narrateur, quelque chose de très narratif hein, dans la poésie de Labine. Donc, c'est un narrateur qui est un peu... ici, en fait, c'est le même narrateur d'un bout à l'autre, mais en tout cas, dans ce passage-là, il est comme dans une perspective d'aliénation. Il est étranger à lui-même, il est complètement coupé du monde, il s'isole, il est dans la solitude. Le monde est décrit un peu dans toute sa clameur et sa sensualité. On est dans un bistrot, dans un restaurant, donc on entend les gens qui se déplacent, qui jasent, qui s'embrassent. On voit des plats passer, il y a beaucoup de nourriture, mais le narrateur est complètement coupé. Il y a un ennui, il y a un engourdissement des sens. Et il est coupé des autres gens aussi autour de lui. Et il y a même une espèce de réflexion. C'est comme si dans cette partie-là, on caressait l'idée d'une... Il parle d'utopie pénitentiaire, comme si... On caressait l'idée que peut-être que si on s'enferme, si on se fait prisonnier de nos pensées, peut-être qu'il y aurait quelque chose de positif. Mais finalement, juste avant le poème que je vous ai lu, on voit que non, ça ne fait pas sens. On parle que si on s'enferme comme ça, finalement, le monde n'a plus de sens. On parle d'une marque de café qui ne signifie plus rien. On parle d'une parole qui se fait rare, de la maigreur des signes. Donc, c'est comme si, finalement, le monde perdait sa signification. Et là, donc, dans ce poème-là, de la page 75, il y a un retour vers, justement, la communauté. Il y a une multitude de bouches, donc il y a plusieurs personnes qui, oui, ont fumé et ont marqué le passage du temps de pas très belle façon sur les murs. On parle de ce qui a jauni. Mais c'est ça. Donc, il y a... une multitude de bouches qui ont communiqué des mots, qui ont communiqué une parole, laquelle parole n'est pas qu'intellectuelle, elle est vraiment inscrite dans la bouche, c'est des bouches qui disent les mots, et c'est des oreilles qui les reçoivent. Et il y a aussi ce vers-là que j'aime beaucoup dans l'espoir fou qui est aussi le vôtre. Donc, il se rend compte que lui-même, ce narrateur-là qui était complètement aliéné, que non, il partage le même espoir que tout le monde, qui est d'entendre un mot qui a une signification, qui aide à vivre le passage du temps. Donc, les mots sont vraiment inscrits dans la temporalité. Et ces mots-là aussi ont un corps vivant. Donc, encore une fois, il y a un lien vraiment évident entre la lecture, les mots, l'intelligence, la poésie et ce qui est de l'ordre du sensible et du monde vivant, finalement. Voilà.
D'ailleurs, là-dessus, tu parlais justement de la fameuse caverne.
Oui, hein? Oui, oui, elle revient. Il y a des passages plus évidents, ouais. Là. Ouais.
Dans ces papiers d'épidémie, il y a un fragment qui s'intitule « Les deux cavernes », d'ailleurs. Donc, il y a mis en parallèle, en fait, du mythe de la caverne, mais aussi de la caverne d'Ali Baba. Donc, encore là, c'est les histoires d'enfance, tu sais, qui sont contées et qui ont donc l'air vraies. Et donc, il y a toute une tangibilité, en fait, du monde qui passe par la langue chez Labine. Donc, je vous lis l'extrait, ça vaut quand même la peine. Donc, tu te souviens du récit qu'on te faisait le soir, les urnes, l'huile bouillante, les mots magiques qu'il suffisait de prononcer pour que s'ouvrent à toi les trésors arabes, volés et secrets. La langue seule en promettait la jouissance. Dans la caverne, le miroitement de ces richesses était tel qu'il ne serait venu à l'idée de personne que tout cela ne fût que du toc. Non plus que l'ombre de tes membres projetée aux parois. La lumière seule en assurait l'évidence. Et donc, justement, cette lumière-là qui assure, donc cette lumière-là qui serait celle de la langue, finalement, qui vient tracer les contours de soi, qui vient tracer les contours du réel. Tu parlais aussi de communauté, la situation réelle d'eux. Autre extrait, en fait, qui vient de vivre à Poets Corner. Et ça, ça c'est hyper important. Labine dit hein, qu'il crée des horizons, des laps de temps. Donc, c'est pas une relation verticale, justement, entre ses œuvres, mais vraiment horizontale. Donc, lire Labine d'un trait, il y a une cohérence phénoménale, en fait, dans chacune de ses œuvres. Il y a un ensemble de figures, que ce soit celle du marcheur, de l'arpenteur, du géomètre, etc., qui sont là pour, justement, découper le réel et essayer de donner une espèce de tangibilité par le biais de la langue. Je vais juste lire un passage donc, de la situation réelle donc, dans Vivre à Poets Corner. Parfois, je me mets à penser que le poème a perdu le sens de la communauté, qu'il ne subsiste que par des formes délocalisées, semblables à ces voix humaines que l'on entend à travers le filtre d'entreprises siégeant on ne sait où. Partout, nulle part, ailleurs, ici, et l'on a dit adieu à la géographie qui se meurt. Des paroles ont perdu leur sol, elles se sont réfugiées au creux des nuages. Donc, bon, ça continue, mais je vais m'arrêter là. Donc, c'est ça, il y a quand même, hein, chez Labine, si on lit, par exemple, les papiers d'épidémie, il y a tous les jeux collectifs qui sont présents. Le jeu de la cacane, le jeu de billes, qui sont... Il y a vraiment une présence du collectif qui est là. Et tu parlais d'un discours critique dans le Pogogne, c'est tout à fait vrai, parce qu'il y a un discours quand même assez virulent, mais contenu. C'est toujours très mesuré chez Labine. Justement, de la vitesse. Il dit, j'établis des... Hein, je crée des horizons, des laps de temps. Je crée du temps. Je ralentis. Et bien souvent, ce regard-là porté sur les choses ne peut advenir que par un arrêt. Que je m'arrête, je regarde, je constate. Et puis... Tu sais, quand on parle de la poésie chez Labine, où ça passe par tout, oui, énormément de descriptifs. Et dans le passage que Jonathan a lu tout à l'heure, les vieux journaux dans leur carton, la poésie jetée par terre comme de la viande à des chiens, comme des choses abandonnées, c'est carrément ça. Je jette quelque chose comme de la viande à des chiens, like me to the dogs, c'est plus une expression anglaise. C'est quelque chose qui est vraiment laissé à l'abandon. Et c'est pas pour rien que c'est mis en parallèle, justement, avec la sortie à la bouche du métro, c'est le rapport entre la vitesse et ce qui, justement, demande un temps, demande de s'arrêter, de regarder, d'écouter, de prendre le pouls de la parole du monde. Donc, de ceux qui parlent, mais aussi du monde en général. Et donc, toute une présence, en fait, du journal, dès le début. c'est le matin, c'est « je beurre mes toasts », bon, je paraphrase. « Je beurre mes toasts », mais je prends le pouls du monde en lisant mon journal. Ensuite, dans la partie centrale du recueil, il y a justement la poésie qui est par terre. Ailleurs, on a un carnet, donc on suppose le carnet Moleskine du poète, qui traîne sous un banc, etc. Donc, il y a toujours cet objet-là qui revient, donc par cette fois encore. Donc, il y a toujours un recueil qui traîne quelque part, du texte, de la parole qui traîne. Peut-être un dernier mot avant de passer la parole à Bertrand. Je sais que tu as plein de choses à dire. Puis après ça, on va clore parce que le temps file, mine de rien. Et puis peut-être que j'aurais plus grand-chose à dire par la suite. Oui, où est-ce que j'allais avec ça? Oui, ça, on parlait du rapport d'horizontalité aussi tout à l'heure. Tu sais, quand on crée des laps de temps, la façon que le recueil est divisé aussi, chaque partie du recueil est associée à un jour de la semaine, bon, du lundi jusqu'au dimanche. Et le jeudi sans paye, en fait, tombe justement dans la partie sur le quartier d'enfance. C'est un jeudi sans paye, dans Schlaga, etc. Mais chaque partie est aussi associée à un mois de l'année, un ou deux mois de l'année. Et donc, on n'est pas dans une séquence des événements nécessairement, mais dans un rapport entre le temps long, donc le mois, et le jour. Et ça crée justement, ne serait-ce que ça, un effet de répétition dans le... Ça instaure en fait cette quotidienneté-là à laquelle... que recherche Labine d'une certaine façon. Bertrand, on t'écoute?
Oui, ben c'est très belles interventions chacun, c'est vraiment très éclairant pour moi. Moi, je lis Labine depuis Carnage en 97 et j'ai toujours été fasciné un peu par les penseurs déprimistes, mais ceux qui réfléchissent sur la civilisation actuelle consumériste. Puis pour moi, Labine, c'est autant un poète, un grand poète en prose, un poète donc, qui travaille moins le formalisme que l'espèce de narration, un peu comme dans les Illuminations de Rimbaud, une narration prosaïque, mais pleine et riche. Et c'est ce que vous avez évoqué, en fait, comme évoqué Estelle, c'est ça, son travail sur la philosophie, sur la médiocrité de nos rapports au réel. Et puis, pour moi, en fait, c'est aussi, surtout depuis Carnage, c'est quelqu'un qui réfléchit sur l'illusion du moi, de l'individualisme marchand contemporain. C'est un espèce de prophète de la fin de l'humanisme. C'est quelqu'un qui se met sur, au bout du gouffre et puis qui nous dit « Regardez bien qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Nous vivons dans les choses, nous vivons à travers les choses, nous vivons pour les choses et nous dansons sur le volcan des choses. » Et puis, mais le pas suivant, qui va être gagné ou non, c'est ce qui va nous amener ailleurs. C'est certain que ma lecture de Labine en ce moment est très teintée par la lecture que je suis en train de faire, qui s'appelle « Homo Deus » de Yuval Harari, l'historien sociologue israélien, qui parle de qu'est-ce qui nous attend dans une centaine d'années, quand les algorithmes auront pris le dessus sur nos individualités, entre autres, et sauront mieux nous connaître que nous-mêmes, hein, reconnaître par la reconnaissance faciale, si on est en état d'agression, ou si par la structure de notre face, on est quelqu'un avec qui traiter ou non. Et Marcel Labine, je trouve que c'est quelqu'un qui, depuis une quinzaine d'années, travaille un peu aussi sur cet aspect-là, donc de l'espèce de nuage consumériste dans lequel on se complaît. Lui n'en est pas dupe et voit au-delà de ça tout le temps. Et je vais vous citer en fait un poème. Et moi, j'ai interprété la verticalité d'une autre manière, mais un peu. Bon, en tout cas, ça revient un peu au même. Alors, donc, il parle un peu du poème et de la poésie comme quelque chose, comme un art qui détruit les verticalités, qui se rebelle contre les verticalités, qui sont pour moi, en fait, aussi bien les transcendances de tout acabit que aussi la verticalité des buildings contemporains, la verticalité de la technologie, tout ça. Et donc, pour appuyer un peu mon propos, je vais vous citer le poème de la page 156. Les poèmes survivent les uns aux autres, les jours se succèdent et les gens peuplent l'espace de la solitude de leur corps, etc. Chacun cherche une nouvelle étreinte, malgré ce que le cœur pressent, ce que les doigts palpent de la réalité de notre nuit. Des formes fabriquées par nos lèvres donnent parfois de nos rêves et de nos jours quelques éclats sonores des choses verticales. Et cela suffit à décimer l'idée de la mort elle-même, car il y a au creux de tout poème ce qu'il faut pour les détruire toutes. Et là, l'antécédent des détruire toutes, il faut que tu y penses deux secondes, c'est les choses verticales, en fait. C'est que la poésie est là pour détruire toutes les choses verticales. Mais nous, nous sommes à même de formuler, par nos paroles, par nos bouches, des grands récits, des choses verticales, les récits qui nous fondent, les récits qui fondent notre individualité, qui nous gardent dans l'illusion consumériste, l'illusion de l'homme unidimensionnel, l'illusion de notre échange, en fait, du fait que l'humanisme perdure puis qui fonde nos vies. Et je trouve que c'est très intéressant et c'est très rare en poésie contemporaine québécoise qu'on s'intéresse à ces questions-là. Moi, Marcel Labine, je le considère un peu comme Roger Desroches, comme des prophètes qui ont beaucoup réfléchi sur l'humanisme. Puis le dernier recueil de Roger Desroches, c'est intéressant. Il a voulu écrire un recueil où il n'y a pas de jeu. Le dernier recueil de Roger, c'est un recueil aux îles. Alors, il a voulu se dégager du jeu, de l'individualisme, donc de ce qui colore beaucoup la littérature depuis les 30 dernières années, c'est-à-dire l'autofiction, le recours au jeu comme une espèce de patte... De porte de secours pour dire j'existe, mais c'est comme une espèce de, en tout cas moi je vois ça comme une espèce de chant du cygne de l'humanisme qui va peut-être perdurer encore 50, 100 ans, mais on... bref, et je vais vous lire un autre extrait de qui la section dans les bars, dans le bar, où là c'est encore plus flagrant que le discours sur nos illusions individualistes occurrent, parce que là, c'est ça, là, c'est comme si l'individualisme se turbo dans les bars, c'est la séduction, c'est « je suis un jeu qui cherche un autre jeu » et additionnons nos jeux et rions de nos jeux et soyons cyniques avec nos jeux. Alors, je
trouve... Ouais, l'induction au bar, c'est aussi une façon de refaire le monde. Aussi.
Exactement.
Ouais, on s'en sauve pas.
Alors, je vais vous lire la page 114. nous simulons. Je pense que la simulation, je pense que tu l'as dit, c'est un très, très important de la réflexion sur la simulation chez Laban, c'est très important. C'est très postmoderne aussi. Nous simulons les balades et les retours d'enfance, isolés dans la réalité du présent sans limite. Nous sommes dans un présent sans limite perpétuel. Nous conjurons le monde végétal par des poses d'artifice, des gangs synthétiques qui doublent notre derme et nous propulsent ainsi sur des scènes modernes où notre état hypertrophié dissimule notre conduite vers la mort. Alors, tout ce qu'on fait, en fait, c'est que l'individualisme et toutes ces espèces d'états mentaux-là sont là pour nous cacher la mort, bien entendu, mais pour nous cacher aux autres aussi, puis pour nous cacher aussi la fin de quelque chose qui s'en vient. L'éternité se mire dans nos pupilles dilatées, toutes à leur joie engluée de sourires aux lèvres. Nous sommes sans relief aucun, lisses véritables, galets érodés par les eaux de nos consciences absentes, auxquelles rien ne s'accroche ou n'adhère au passage. Rien ne s'attache à nous et rien ne nous retient. Nous sommes sans organes, en toute liberté. Nous gardons la cadence entre nous et chacun se reconnaît dans l'autre. Le cristal aux mille faces est notre assise et notre loi. Nous consentons tous à la banalité des traits. Nous nous accomplissons dans l'acquiescement, anonyme, où personne n'existe et ne doute. Nous sommes le corps parfait dans la frivolité du monde. Nous glissons sur le plancher de danse et la sueur inodore qui perle sur nos torses bariolés de couleurs nous rend luisants et presque lumineux au creux de cette nuit qui n'en est pas une. Alors, on voit ici tout ce qui est étudié chez... dans la poésie de Marcel Labine, puis qu'on a traité depuis le début, d'ailleurs. Donc, la banalité des traits, la banalité des choses, l'espèce de vitesse. Nous gardons la cadence entre nous. C'est entre les êtres, il faut garder une certaine vitesse pour oublier, mais en même temps, pour se faire illusion. Nous simulons les balades et les retours d'enfance. Donc, c'est une espèce de critique un peu de la psychanalyse ou des choses comme ça, où on définit notre moi en faveur d'un récit ou d'un moi narrateur qui va chercher vers l'enfance, qui nous définit. Isolé dans la réalité du présent sans limite, bien entendu, on est dans le présent sans arrêt parce que bon, le passé ou le futur, c'est des choses projetées, mais en même temps, le présent, c'est ce qui nous permet de consommer. C'est get real, écoute ton corps, vas-y au présent. Le présent, c'est ultra publicitaire, en fait. Le présent, c'est ce que la publicité fait de nos vies. C'est comme reste vif, reste à l'éveil, regarde les choses, les nouvelles choses, les choses neuves. C'est ça que tu dois acheter, c'est ça que tu dois considérer. Nous conjurons le monde végétal par des poses d'artifice, bien entendu, des gangs synthétiques qui doublent notre derme. Alors là, bon, je me suis dit, bon, y penses-tu avec des gants de réalité virtuelle? Je ne sais pas trop, mais l'idée, c'est gangs synthétiques aussi, des choses qui sont là pour nous augmenter nos sensations, qui sont là pour intervenir avec le réel, mais de façon in medias res, comme tu as dit, Philippe, tantôt. Et on a bien entendu les artifices qui sont là pour... qui sont ce qui représente la société contemporaine de consommation. Alors... c'est ce que j'ai retenu. Je voulais parler en fait aussi de Labine comme un post-romantique. J'aime les post-romantiques un peu qui... Il y a un petit peu de Houellebecq chez Labine, je trouve, beaucoup. Un peu comme Ruskin qui écrivait sur les ruines puis qui influençait un peu Marcel Proust. Et il y a une espèce d'esthétique de la ruine, justement, dont tu parlais, Benoît, aussi. Et dans Carnage, Machine imaginaire aussi, tout ça, c'est flagrant. Puis les titres, en plus, Le tombeau où nous courons, là, c'est totalement... C'est la charogne de Baudelaire, c'est toute cette époque-là aussi, où on vit dans des ruines. Et puis, comme l'a mentionné aussi Jonathan tantôt, c'est ça, la poésie, c'est de la viande jetée aux chiens au métro Pie-Neuf aussi, c'est ça. Donc, c'est des ruines très réelles, des ruines concrètes, des ruines de la société de consommation actuelle. C'est pas nécessairement des ruines comme Ruskin, des grandes cathédrales ou des anciennes abbayes ou des restes de châteaux. Les ruines de la société contemporaine, c'est partout où on marche, c'est partout où on évolue. Ils sont là sans arrêt, puis ils sont au centre de l'océan, bien sûr, le continent de plastique. Alors, pour moi, Marcel Labine parle de tout ça de façon globale. Et puis, C'est ça qui m'intéresse dans sa réflexion. Mais je trouve qu'il y a aussi, c'est certain, il y a un côté redondant aussi. Quand tu lis 5-6 livres de Labine, à un moment donné, tu as l'impression de relire des choses. Il revient, il insiste beaucoup. C'est comme les anaphores, c'est pas juste dans ses poèmes. Les anaphores, c'est dans ses œuvres. Poète Corner, je l'ai lu, j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs aussi. Je veux dire, c'est intéressant parce qu'il parle en fait... Flichberg, je pense, il est en Estrie. Hein? Je pense qu'il parle de l'Estrie là-dedans. Ouais.
Ou... Entre autres.
Bon, c'est ça. Alors, c'est une belle promenade en Estrie, mais toujours avec cet aspect-là un peu inquiet sur le monde contemporain.
D'accord. Peut-être là-dessus, et puis on va terminer bientôt avec des lectures. D'ailleurs, je ne sais pas, Jonathan, si tu avais des lectures toi aussi ce soir. Non. Alors, écoutez, peut-être un... deux derniers poèmes que je vais lire, puis ça va peut-être mettre en lumière aussi certaines choses que Bertrand vient d'évoquer là, par rapport justement au consumérisme. Ou, là, ce serait plutôt un consumérisme du regard, que je voudrais dire. Donc, poème de page 140, donc la partie justement où le poète déambule sur la montagne. L'autocar déverse un flot de touristes. Une voix étrangère lui récite le sens des gratte-ciels. Celui des ponts et des arcs tendus vers les banlieues. Le défilé suit la courbe du belvédère et s'arrête, comme le soleil couchant vers l'ouest, là où naît le fleuve, dans les mers intérieures du continent. Page 141. La ville que j'habite, une invention verbale, de matières inertes, d'esprits et de mains. La montagne où je suis, des cadastres, ne disant pas leur nom, tapis sous les brindilles. Alors, ce qui est assez intéressant ici, on parlait des choses verticales. Et puis bon, il faut détruire aussi les choses verticales. Ça, c'est toi qui mentionnais ça. Les choses verticales aussi chez Labine, c'est le livre qui est fermé sur la tablette. Et donc, c'est le livre qui n'est pas ouvert, le livre qui n'est pas lu, le livre qui n'est pas réinterprété, le livre qui n'est pas partagé, ou du moins la parole qui n'est pas partagée. Et donc, comment dire, en s'attaquant, à la marchandisation en général, il y a aussi cette marchandisation-là de la parole qui est assez évidente avec cet autocar-là de touriste. Et bon, voici, quelqu'un va désigner le monde à notre place et on va prendre ça pour du cash. Et donc, je trouve que ça faisait un bon parallèle avec ce que tu évoquais. Et puis, comme le temps file, et on a entendu les cloches d'ailleurs sonner. c'est toujours un avertissement. Les cloches sonnent, faites ça vite. C'est l'heure du souper. Je prendrai le temps d'écouter un extrait de lecture de Bertrand.
Mais si, je suis le seul à lire, je ne veux pas non plus, mais.
On t'impose rien.
On t'impose rien.
Sinon, on peut.
Je pensais à la verticalité, ça peut être un lien avec Waroz aussi? Une espèce de critique, parce que la verticalité, c'est aussi celle du poème, qui est souvent, si les vers sont courts, ça fait, c'est une barre droite, souvent. Enfin,
Ce serait une autre piste. Ce serait une autre piste à exploiter.
Mais je pense que la piste philosophique soulignée par Esther, c'est une bonne piste nette, là, en tout cas pour la verticalité là-dedans, je pense que...
Ben... Moi, c'était ça que je voulais, mais bon.
Peut-être juste ajouter sur la verticalité et les choses, trois vers que vous retrouvez à la page 77. Il est écrit « Vous êtes une chose verticale, perdue parmi celles fabriquées qui vivront après vous. » Et là, on a justement pour ce que tu disais, Bertrand, sur l'aspect de la société de consommation. Le sujet appartient au rang des choses.
Voilà, c'est ça.
Et ici, il y a vraiment... on ne peut pas distinguer... On est juste une autre forme de choses, mais on partage la même verticalité que ces choses fabriquées de nos propres mains.
Voilà. Je n'avais même pas noté ce point-là, mais c'est tout à fait ça.
Merci. Sur ce, je pense qu'on va... On va clore. Donc, avant de quitter, je tiens à remercier tous nos partenaires. Il y a la librairie du Square qui tient avant tous les livres au programme des sortes de lecture. Littérature québécoise mobile qui enregistre les cercles. Radio Spirale qui archive et diffuse les balado-diffusions. La Poésie Partout qui a mis sur pied le cercle de lecture Poésie-été. Sans oublier, bien évidemment, la librairie et Atelier de quartier La Flèche Rouge en la personne de Pascal André. Ici présente ce soir, qui nous accueille toujours avec grand bonheur. et on est très heureux en retour d'être accueillis par Pascal. Le prochain cercle de lecture aura lieu, si je ne m'abuse, le samedi 28 octobre et sera animé par Jonathan Lamy, ici présent avec nous ce soir, et portera sur le livre « Un thé dans la toundra » de Joséphine Bacon, à moins qu'il y ait eu changement au programme. Mais
Non, non, je pense que ça va être ça. C'est le, avec le, quand Bertrand parlait des cercles de thé, moi j'ai tout de suite pensé à ce livre-là, qui est peut-être le seul livre de poésie québécoise, ou peut-être même tout court, où il y a le mot « thé » dedans et qui en parle pour vrai. Et donc, prochain rendez-vous...
Thierry Dimanche, le thé d'or.
Ah, c'est vrai.
Thierry Dimanche, okay. Le thé d'or. Oh,
on a déjà des éléments de discussion intéressants.
C'est excellent. Et donc, je vous invite à consulter la page du site La Poésie Partout pour plus de renseignements ou contacter l'organisme à l'adresse courriel suivante partoutlapoésie@gmail.com. Je vous souhaite une belle fin de journée et n'oubliez pas, lire de la poésie, c'est assumer sa part de rêve et nourrir sa liberté. À une prochaine fois. Et en passant, merci à nos intervenants et intervenantes de ce soir. Bon sang, j'oublie l'essentiel. C'est terrible. Donc, merci à Philippe Archambault, Jonathan Lamy, Esther Laforce et Bertrand Laverdure. Donc, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Et merci à Nelly Desmarais qui était là. Donc, c'était la première fois officiellement que les sortes de lecture de la poésie partout étaient enregistrées devant public. Alors, merci Nelly. À une prochaine.